de prestige, s'il vous plaît.
Et oui, puisque Juliette Binoche sera avec nous à partir de 9h40, après avoir présidé le festival de Cannes. Il y a quelques semaines, elle vient nous présenter son tout dernier film qui sort demain. Le titre, Thomas ?
The Return, le retour d'Ulysse. Bon, ben c'est Ulysse, quoi. Vous connaissez l'histoire, la guerre de Troie, tout ça. Vous restez avec nous, puisqu'il est pile 9h sur RTL.
Le temps de tout comprendre, c'est le grand journal de 9h.
Et le grand journal de 9h, c'est avec vous, Sébastien Rouxel.
C'est ce soir ou jamais sur RTL. Ce matin, la patronne de la CFDT refuse de prolonger le conclave sur les retraites et elle met la pression sur le patronat pour qu'il accepte ses propositions sur la pénibilité.
Autre sujet en discussion dans ce conclave, faire éventuellement passer l'âge d'annulation de la décote de 67 à 66 ans. Mais c'est quoi exactement la décote et à qui ça profiterait? Martial Liu va nous l'expliquer.
Et puis tiens, de quand date les retraites en France, qui les a créées? Ce sera la question pas si bête, signée comme chaque jour Florian Gazan.
Également à la une ce matin, l'armée israélienne qui vient d'annoncer avoir tué le plus haut gradé de l'armée iranienne, un proche du guide suprême, Volodymyr Zelensky, qui dénonce lui l'une des pires attaques russes après la mort d'au moins 14 personnes cette nuit à Kiev. Et puis s'assurer n'a jamais coûté aussi cher, les tarifs des assurances auto et habitation s'envolent sur un an.
Et Christophe Bourroux, notre monsieur automobile, sera avec nous pour nous expliquer ce qu'il faut faire ou éviter de faire pour que la note soit la plus légère possible sur nos assurances.
C'est le grand journal de 9h et c'est parti.
RTL matin jusqu'à 10h.
La balle est dans le camp du patronat. Ce matin sur RTL, la patronne de la CFDT, Marie-Lise Léon, a mis la pression sur le MEDEF alors que le conclave sur les retraites est censé s'achever ce soir après 4 mois de négociations. S'ils veulent un accord, dit-elle, il faut qu'ils acceptent nos propositions sur la pénibilité et pas question pour elle de prolonger les discussions.
Il faut que ça se termine ce soir. Aujourd'hui, on va pas jouer les prolongations pour se faire plaisir et continuer d'avoir des avancées possibles à telle ou telle condition. Moi, je suis tranquille, vous savez. La CFDT, elle est restée dans le conclave jusqu'au bout, malgré toutes les pots de banane qu'on a pu nous mettre sur la route. Donc, je suis motivée et extrêmement stimulée par l'idée qu'il faut pouvoir avoir des réponses concrètes.
Voilà Marie-Lise Léon, la numéro 1 de la CFDT, invitée de RTL Matin. Elle a également confirmé que les discussions se poursuivaient sur un éventuel abaissement de l'âge d'annulation de la décote.
Bon, mais qu'est-ce que l'annulation de la décote? RTL vous donne les clés, RTL vous explique.
Et on va voir ça avec vous, Martial Liu. Bonjour Martial.
Bonjour.
D'abord, qu'est-ce que la décote et quelle est la règle aujourd'hui?
Alors, à terme, avec la réforme à 64 ans, vous devez avoir cotisé 172 trimestres pour pouvoir prendre votre retraite. Donc, si vous avez tous ces trimestres, donc 43 années de cotisation à 64 ans, tout va bien. Mais si vous ne les avez pas et que vous décidez de vous arrêter à 64 ans quand même, bah là, vous avez une décote. On vous retire à peu près 1,25% de votre pension et ce sera comme ça pendant toute votre retraite ensuite. Et si vous êtes très loin des 172 trimestres, et bien vous devez tenir jusqu'à 67 ans aujourd'hui pour toucher votre retraite à taux plein. C'est ça, l'âge légal réel.
Donc c'est 67 ans. Et qu'est-ce qui peut changer après ce conclave alors?
Alors c'est ce que défend la CFTC, et avec l'appui on vient de l'entendre de la CFDT, c'est d'avancer l'âge du départ en retraite à taux plein à 66 ans. Donc plus 67 ans comme aujourd'hui. C'est pas négligeable parce que si on regarde les chiffres, vous avez 18% des Français qui liquident leur retraite à 67 ans et plus selon l'expert Maximis Retraite. Donc sur 800 000 départs, j'ai fait un petit calcul ce matin, hein, par an, ça veut dire que 120 000 vont pouvoir partir un an plus tôt. Donc si on prend une retraite moyenne à 20 000 euros par an, ça fait 1 600 euros par mois, ça représente un coût de 2,5 milliards quand même pour les caisses.
Bon, et Marcel, on sait à qui ça profiterait le plus de passer à ces 66 ans?
Oui, c'est une mesure qui corrige les injustices de la réforme pour les femmes, hein, qui ont des carrières hachées, on le sait, incomplètes, à temps partiel en raison des grossesses notamment. Elles sont 20% à devoir prolonger jusqu'à la décote, c'est deux fois plus que les hommes. Et cette décote à 66 ans permettrait donc aux syndicats aussi de dire que finalement, même si on n'a pas touché aux 64 ans, au totem des 64 ans, on a quand même réussi à avancer un peu l'âge de départ à la retraite pour les plus défavorisés.
Merci beaucoup à vous Martial Liu, et dans quelques minutes à la fin de ce journal, ce grand journal de 9h, Florian Gazan nous dira qui a inventé les retraites.
Avant cela, ce 5e jour de guerre entre Israël et l'Iran, et on part tout de suite Sébastien pour Tel Aviv.
Où l'on retrouve pour RTL Betsabé Salem, puisque l'armée israélienne Betsabé vient d'annoncer avoir éliminé le plus haut gradé de l'armée iranienne.
Oui, il s'agit du nouveau chef d'état-major iranien qui est rentré en fonction il y a quelques jours à peine, hein, son prédécesseur ayant été éliminé déjà par Israël. Ali Shadmani était le commandant militaire iranien le plus haut gradé, donc, et aussi l'homme le plus proche du guide suprême Ali Khamenei. Il a été tué dans la nuit par une attaque visant son quartier général, ce qui d'ailleurs pourrait expliquer la salve de missiles tirée par l'Iran il y a un peu plus d'une heure. Une attaque qui n'a fait que quelques blessés, victimes d'angoisse.
Betsabeh Salem, correspondante de RTL en Israël. Nous sommes en train de changer le visage du Moyen-Orient, a déclaré hier soir Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, qui dit aussi qu'éliminer le guide suprême iranien mettrait fin au conflit. Israël a le droit de se défendre, mais il faut protéger les civils. Ça, c'est la déclaration commune des pays du G7, publiée tôt ce matin. Sommet que Donald Trump a quitté prématurément tout à l'heure. Il est allé travailler à un cessez-le-feu, a dit Emmanuel Macron. C'est faux, a répondu plus tard le président américain. Emmanuel ne comprend jamais rien. Fin de citation.
C'est l'une des pires attaques russes. Déclaration cette fois de Volodymyr Zelensky. C'était il y a quelques heures après les bombardements de la nuit sur la ville de Kiev.
Oui, des bombardements qui ont fait au moins 14 morts cette nuit. Un Américain de 62 ans notamment. 14 morts en une nuit. La capitale n'avait jamais connu cela depuis le début de la guerre. Tetiana Ogarkova, essayiste ukrainienne, habite dans la banlieue de Kiev.
On n'a pas bien dormi, évidemment. On a tout très bien entendu. Vers minuit, nous avons tous entendu des explosions et ça a duré littéralement jusqu'à 6 heures du matin. Des immeubles résidentiels qui ont été touchés. C'est un changement significatif. Les attaques par drone, ils visent une ou deux villes par nuit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est nous et demain, ça sera Kharkiv ou bien Dnipro. Ils essaient de concentrer leurs drones autour d'une seule ville pour augmenter justement l'efficacité de leur frappe.
Voilà le témoignage de cette habitante de Kiev recueillie pour RTL par Charles Ducrot. Chez nous en France, les obsèques de Mélanie, cette surveillante de 31 ans tuée par un collégien la semaine dernière à Nogent en Haute-Marne, auront lieu aujourd'hui. Une cérémonie là où elle vivait, à Sarcelles, dans la plus stricte intimité.
Il est 9h06 sur RTL. Écoutez bien ce chiffre, 1000 euros, voilà ce que vous allez dépenser en moyenne cette année pour votre assurance habitation et votre assurance auto.
Ce sont les chiffres du comparateur en ligne Assurance. Les tarifs s'envolent sur un an, plus 12,8% pour l'assurance habitation à cause notamment des catastrophes naturelles, plus 6,8% pour l'assurance auto. Et c'est encore pire si vous êtes jeune, les moins de 25 ans paient près de 1600 euros de primes, c'est 14% de hausse. De quoi décourager ces jeunes conducteurs rencontrés à Tours.
Aujourd'hui, c'est un luxe d'avoir une voiture pour la plupart des jeunes entre 20 et 30 ans. En tout cas, pour une certaine catégorie de jeunes, c'est un luxe. Entre 1000 et 1500 euros sur des véhicules qui sont, en somme toute, classiques, quoi. Donc, c'est super cher pour la plupart des jeunes de mon âge.
Je n'ai jamais acheté de voiture et c'est lié au coût de l'assurance, les frais d'entretien. Je préfère m'en passer et j'utilise essentiellement le train ou le BlaBlaCar, quoi.
Voilà, témoignage recueilli par Christian Panvert pour RTL.
Des prix qui explosent, comment limiter la casse, RTL vous conseille.
Et pour ça, on vous retrouve Christophe Bourreau. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Bon, déjà, est-ce qu'on peut changer d'assurance comme on change d'opérateur téléphonique pour faire jouer la concurrence et faire baisser les prix? Ça marche aussi?
Alors oui, c'est possible grâce à la loi Hamon. Cette loi vous permet de résilier votre contrat d'assurance après un an d'engagement, sans frais ni justification, et votre nouvel assureur s'occupe des démarches. C'est exactement comme pour les opérateurs téléphoniques.
Et alors, est-ce que comme pour les opérateurs téléphoniques, je peux aussi renégocier mon contrat d'assurance?
Oui, surtout si vous arrivez avec une offre concurrente, parce que pour garder comme client, les assureurs sont souvent prêts à ajuster leurs tarifs ou à vous proposer des garanties supplémentaires en vous offrant par exemple une assistance juridique. Et l'argument qui fait souvent mouche, c'est rassembler le contrat d'habitation et auto chez un même assureur, ce qui peut faciliter la négociation et donc une baisse de la prime.
Bon, il y a d'autres offres d'assurance qui sont arrivées sur le marché, proposées désormais par les banques en ligne. C'est intéressant ça ou pas, Christophe?
Alors oui, mais attention, la banque vous demandera d'ouvrir un compte pour bénéficier de son offre. Les assurances en ligne, elles cassent les prix, hein. C'est 10-20% moins cher, moins de frais, pas d'agence, tout se passe par téléphone. Seulement, il faut bien vérifier les garanties et les options incluses, car parfois les offres de base sont limitées et les options type dégâts des eaux ou bris de glace pour une voiture peuvent vite engendrer des surcoûts.
Et Christophe, on le rappelle, vous êtes notre spécialiste auto ici à RTL. Si vous aviez trois conseils à donner à nos auditeurs concernant justement leurs assurances, ce serait
lesquels ? Alors, la base, c'est vraiment de comparer, surtout en assurance auto, parce que pour le même contrat, ça peut varier, eh bien, de 1 à 4.
Ah oui.
Même
contrat.
Pour le même contrat, surtout si vous êtes un ancien client, parce que en assurance, la fidélité, ça ne paie absolument pas. C'est-à-dire qu'on va augmenter votre prime au fur des années, voilà, et vous en rendez pas compte. Donc, l'intérêt, c'est vraiment d'aller sur les sites spécialisés. Ça prend 5 minutes et c'est vraiment très simple. Deux, c'est adapter le niveau de garantie à la valeur et à l'usage de votre voiture. Si vous avez une vieille Twingo, une 207, là, une assurance au tiers suffit. Et surtout, si vous parcourez peu de kilomètres.
À partir de quel âge de voiture, je sais pas, enfin, combien de temps on passe au tiers?
Oh, ça dépend de la cote à la Argus, mais on va dire qu'après 6 ans, vraiment, il faut passer au tiers. C'est vraiment conseillé. Et puis, il y a le petit boîtier électronique. Là, c'est imbattable puisque vous allez pouvoir avoir une réduction qui peut aller jusqu'à 40%. Le petit boîtier qui enregistre votre mode de conduite, si vous avez une conduite zen, eh bien, vous avez une réduction sur votre prime. Mais il y a une condition, c'est quand même accepter de rouler avec un mouchard dans votre voiture.
Et ça existe chez toutes les compagnies, le petit?
Non. Direct Assurance le fait. Il y en a très peu aujourd'hui parce que les Français sont un peu réticents à avoir un mouchard dans sa voiture, mais très honnêtement, c'est une solution très simple pour faire diminuer sa prime.
J'aurais presque envie de vous demander chez qui vous êtes assuré, mais ça va être de la pub, on va pas pouvoir le dire. Je dirais tout à l'heure en...
Non, mais c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Attention.
Merci Christophe Bourreau. Et puis comme promis, alors que le conclave sur les retraites s'achève en principe ce soir, on vous explique depuis quand les retraites existent et qui les a créées.
La question pas si bête de Florian Gazan.
Bonjour Florian.
Bonjour.
Alors depuis quand nos retraites existent?
Eh bien le tout premier système de retraite mis en place en France et même dans le monde date de 1673, créé par le ministre des Finances de Louis XIV, Colbert. Il est uniquement réservé alors à la marine royale. C'est le moyen que Colbert avait trouvé pour motiver les marins à s'y engager, à y rester. 2,5% de leur solde est alors prélevé pour payer la construction d'hôpitaux destinés aux estropiés qui ne pouvaient plus partir en mer et financer une caisse qui leur est destinée, caisse étendue en 1784 aux marins de plus de 60 ans à qui on donne le droit de partir à la retraite.
Bon, ça c'est en 1673, donc si j'ai bien suivi, ça va s'étendre quand aux autres corps de métier?
Alors, petit à petit, les employés de la Banque de France en 1806 et les pensionnaires de la Comédie Française en 1812, c'est en 1853 que la retraite est généralisée à tous les fonctionnaires d'État à l'âge de 60 ans, sauf pour les travaux pénibles qui peuvent partir 5 ans plus tôt, mais rien encore pour les ouvriers et les paysans, eux doivent attendre une loi de 1910 pour toucher une retraite, une loi qui est un peu une arnaque en fait.
Une arnaque? Pourquoi?
Ben, elle fixe leur âge de retraite à 65 ans. Mais comme à l'époque leur espérance de vie est de 45 ans, ils partent le plus souvent au cimetière avant de pouvoir partir à la retraite. Le régime général des retraites par répartition qu'on connaît aujourd'hui arrive finalement en 1945 avec la création de la Sécurité sociale. Son papa, c'est Pierre Larocque, jeune conseiller d'État qui avait débarqué en 44 en Normandie dans les pas du général de Gaulle et qui d'ailleurs, pour l'anecdote, était le grand-oncle de la comédienne Michel Larocque.
Et y avait-il à l'époque un Don Diego Martinez qui était l'ancêtre de Philippe Martinez?
Non, mais il y avait Ambroise Croizat qui était ministre des Travailleurs.
C'est
le patron de Larocque.
C'était le patron de Larocque.
C'était le ministre.
Ah bah oui, c'est ça. Merci Philippe Martinez, d'ailleurs, de bonne humeur, tiens, vous ce matin.
Je suis de très bonne humeur, ces précisions historiques sont importantes.
Elles sont fondamentales et votre rigueur vous honore. Merci beaucoup à vous Florian, merci également à vous Sébastien pour ce journal. La météo, monsieur Bonin, là encore c'est précis, c'est chiffré, c'est argumenté.
Oui, c'est du soleil. Alors, j'attendais, j'espérais pouvoir dire, il y a un ciel tout bleu sur toute la France. Non, c'est pas vrai. Non, il reste encore quelques nuages sur le nord de la Bretagne, là sur le Cotentin ou encore sur le nord de la Normandie, mais pour le reste, donc on a un ciel tout bleu, ça sera le cas dans toute la moitié sud toute la journée, sauf dans les Alpes du Sud où on aura quelques développements nuageux possibles avec une averse en fin de journée, et puis dans la moitié, enfin au nord de la Loire, on aura quelques développements nuageux mais sans conséquence, l'impression de beau temps, pas de précipitation, moins de vent du côté de la vallée du Rhône, et puis les températures qui vont encore grimper par rapport à hier, 21 à 24 degrés près de la Manche, 27 à 31 degrés ailleurs, et jusqu'à 33 degrés à Nîmes, et 34 degrés même à Perpignan.
C'est à Perpignan qui fera le plus chaud
aujourd'hui. C'est aujourd'hui à Perpignan, mais enfin, globalement, c'est dans toutes les régions du Sud. On dépassera allègrement les 30 degrés.
Merci beaucoup, Louis. Dans un instant, votre débat, on n'est pas toujours d'accord, et comme chaque mardi, face à face, Philippe Martinez, donc vous venez de l'entendre, l'ancien secrétaire général de la CGT, François Langlais, éditorialiste ici à RTL. On va parler des retraites, bien sûr. Il faut que ça cesse, a dit tout à l'heure Marie-Lise Léon à propos du conclave sur les retraites. Va-t-on ou pas vers un accord? On va en débattre dans un instant, à tout de suite.
RTL Matin, c'est jusqu'à 10h.
À tous ceux qui se retrouvent entre potes quand c'est soir de match, mais faites pas trop de bruit, il y a la petite qui dort à côté. Et à ceux qui vont devoir apprendre à crier sur l'arbitre, mais en chuchotant. Mais il y a faute là ! Carton, monsieur l'arbitre ! Carton, monsieur l'arbitre ! Oh. Intermarché vous offre 80% en avantage carte sur tous les produits de la marque Pampers. Et c'est aussi sur notre appli. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 22 juin, des 30 euros d'achat et dans la limite de 40 euros, modalité sur intermarché.com.
Ah, eh ben j'ai fait le tri dans mes bijoux en or. Je les ai revendus chez Or en Cash. Et voilà, ça paye les soins du surf.
Revendez vos bijoux et profitez pleinement de votre été avec Or en Cash.
Or en Cash, achète cash.
Transaction réservée aux majeurs et soumise à réglementation. Paiement par chèque ou virement.
Mon client, quand il a vu qu'il avait une grosse fissure sur son pare-brise, il voulait vite le faire remplacer. Faites comme lui. Un problème avec votre pare-brise? Pensez tout de suite à Carglass. Avec notre plus grand stock de vitrage Carglass d'Europe, votre pare-brise, il est vite envoyé dans le centre que vous avez choisi. Et jusqu'au 20 juin, pour une réparation d'impact ou un remplacement de pare-brise, Carglass vous offre un aspirateur de voiture développé par Noroto. Alors, prenez rendez-vous tout de suite sur carglass.fr. N'oubliez pas, c'est seulement chez Carglass.
Carglass répare, Carglass remplace.
Conditions sur carglass.fr.
On n'est pas toujours d'accord. Le débat du 9-10.
Pour les femmes, on avance. Sur la pénibilité, c'est le blocage. Donc là, nous, je dirais, la balle est dans le camp du patronat. Si aujourd'hui, veulent un accord, ils prennent notre proposition.
Sinon, il n'y aura pas d'accord.
Sinon, il n'y aura pas d'accord avec la CFDT, c'est clair et net. Donc, certains responsables nous ont dit, peut-être que si vous avez besoin de plus de temps, on n'a pas besoin de plus de temps.
Il faut que ça se termine ce soir.
Il faut que ça se termine ce soir.
Il faut que ça se termine ce soir. Ce sont les mots de Marie-Lise Léon, la numéro 1 de la CFDT ce matin sur RTL concernant ce fameux conclave sur les retraites. Dernière réunion, a priori, aujourd'hui. Mais c'est vrai que François Bayrou, hier, a laissé la porte ouverte, proposant éventuellement de prolonger les discussions. On va revenir sur ces propos et sur ce conclave plus globalement avec vous, Philippe Martinez, ancien secrétaire général de la CGT, et François Langlais. Philippe Martinez, je me tourne d'abord vers vous. Si on essayait de décrypter le langage syndical, ce que vient de dire Marie-Lise Léon, quand on l'entend, on se dit... Soit c'est mort et elle le sait, soit c'est un dernier coup de pression, ou il y a peut-être d'ailleurs une troisième version. Si on décrypte tout ça, vous qui connaissez parfaitement ça, qu'est-ce que vous diriez ?
Je ne suis pas un spécialiste de la CFDT, mais de ce que j'ai compris, il y a besoin d'un accord aujourd'hui pour ceux qui sont restés négociés, et aussi pour le gouvernement. C'est pour ça que la prolongation proposée par François Bayrou me paraît stupide. Il y a besoin d'un accord. Après, je ne sais pas ce qui va se passer. Enfin, elle avait l'air assez.
Elle était remontée, hein.
Elle était remontée, surtout sur les questions de pénibilité, parce que vous vous rappelez, les critères de pénibilité ont été supprimés dès l'arrivée d'Emmanuel Macron, et là, on rediscute des mêmes choses. On a perdu en gros 7 ans.
Et elle a précisé qu'elle faisait une proposition à la CFDT qui n'était pas une usine à gaz, parce que c'est vrai que c'est ce qui avait été beaucoup reproché.
L'ensemble des syndicats avait revu. Les propositions sur la pénibilité, on peut faire très simple sur les questions de pénibilité. Donc, à mon avis, pour ceux qui sont restés, il faut un accord ce soir.
Bon, François Langlais, il faut un accord ce soir, même si cet accord ne satisfait pas tout le monde, mieux vaut un accord comme ça que pas d'accord du tout ?
Oui, parce que ça légitime quand même le fait que, justement, certains partenaires sociaux soient restés pour discuter, pour débattre. S'ils sont restés qu'il n'y a pas d'accord, là, ils perdent sur tous les tableaux. Et ils n'y ont pas intérêt. Pour autant, ça ne se fera pas à n'importe quel prix. Je crois effectivement qu'il faut faire le départ entre ce qui peut sembler comme une posture de négociation ce matin, et puis la réalité du rapport de force. Donc espérons qu'un accord sera conclu. Quand même, hein, il faut souligner l'importance de cet hypothétique accord, ça conclurait un bazar incommensurable depuis 8 ans.
Vous êtes sûr que ça le conclurait ?
Bah oui.
Ouais.
Ça voudrait dire que, de fait, ça donnerait quand même une légitimité à cette réforme amendée et que on en aurait fini avec ce serpent de mer. Le premier projet de
Philippe
réforme...
Il fait nom de la tête.
Oui,
hein.
Mais il pense qu'il veut, mais laissez-moi terminer.
Merci, François Langlais, merci.
Le premier projet de réforme des retraites, il date quand même de 2017. Ouais. C'était juste après l'élection d'Emmanuel Macron. Puis, ça a été amendé par le Premier ministre Édouard Philippe avec l'âge pivot, puis on a abandonné, On est reparti. Oui, on est reparti sur un autre projet après l'élection de 2022. Enfin, c'est quand même incroyable. Ça fait 8 ans qu'on essaie de couper la queue du chat et qu'on n'y arrive pas.
Philippe Mathias, pourquoi vous n'êtes pas d'accord quand il dit que ça conclurait le dossier une fois pour toutes?
Parce que je pense que les politiques peut-être, et encore que je n'en sois pas sûr, mais pour l'opinion publique, quel était le souci, le principal problème en 2023, c'est l'âge légal. Et donc, et d'ailleurs, Marie-Lise Léon l'a rappelé aussi, je pense que tous les syndicats restent contre ce recul de l'âge légal. Donc,
oui, mais ce n'est plus bloquant pour elle, visiblement.
Pour l'opinion publique,
c'est ce que j'ai compris.
Pour l'opinion publique, le premier problème, et c'est pour ça qu'il y a eu d'énormes manifestations et une énorme mobilisation en 2023, c'est le recul de 2 ans de l'âge légal de départ en retraite. Et ça n'est pas réglé, même s'il peut y avoir des avancées sur les femmes, par exemple, qui étaient un sujet,
sur l'autre âge légal.
Sur l'autre âge légal pour avoir une... Oui, mais ça, faut tout ce qui est... Tout ce qui est une avancée, comme dirait la Palice, c'est pas un recul, mais... vous en rappelez quand même, ça fait assez de bruit, les mobilisations, les manifestations. Le slogan, c'était « pas de recul de l'âge de la retraite de 2 ans ».
En tout cas, tout cela est quand même très compliqué. Ça fait des années, vous le rappeliez à l'instant, qu'on en parle. Et il y a encore beaucoup de questions qui se posent. On a un message d'Aurélien au 64-900 qui dit « J'aurai mes 43 années de cotisation à l'âge de 61 ans. Aurais-je le droit à ma retraite à taux plein, même si l'âge légal est de 64 ans ?»
On ne peut absolument pas lui répondre.
Pourquoi ?
Mais non, tout dépend des conditions d'application de la réforme et elle se décide aujourd'hui. Donc peut-être que d'ici ce soir, la situation de cet auditeur sera changée dans des proportions.
Mais c'est pas ça le problème, c'est que finalement on comprend rien. Enfin, on a tous reçu des dizaines et des centaines d'invités depuis quelques années qui sont nous expliquer il faut faire ci, il faut faire ça, et au bout du compte, quand on est auditeur, on l'entend. Quand chacun d'entre nous, on se dit mais c'est quel âge, c'est quel...
Thomas,
est-ce que le système n'est pas trop.
Mais ça s'explique. C'est très simple. Je ne vais pas revenir sur les fondamentaux, mais on vit de plus en plus longtemps, il y a de moins en moins de cotisants. C'est la base. Bon. Après, on a un exécutif qui s'y est pris de façon calamiteuse, avec des projets qui n'avaient ni queue ni tête, qui ont été complètement impréparés, je parle de celui de 2017 sur la retraite à points, qui se sont heurtés sur le mur de la réalité, et après, on a repris le chantier... avec des propositions tout aussi incompréhensibles. Donc, il y a l'incompétence extraordinaire du politique qui est en cause là-dedans, et le fait qu'ils ont voulu délibérément sortir les syndicats et le patronat, les partenaires sociaux. C'est ça qui explique le bazar dont vous parlez.
Au bout du compte, on aboutit à un bidule auquel personne ne comprend rien, de bonne foi.
Les politiques ont l'art de rendre compliqué quelque chose qui peut être simple. Mais pour répondre à la question de l'auditeur, parce que c'est ça le sujet, ils devraient pouvoir... Ils devraient pouvoir... Non, oui. Si c'était simple, il devrait pouvoir. Oui. Il a ses années de cotisation, il aura une retraite à taux plein, il devrait pouvoir partir, même à 61 ans. Sauf qu'il y a des postures idéologiques et politiques qui nous disent qu'il faut travailler plus longtemps, y compris, je pense que ça doit être une carrière longue, par exemple.
À 61 ans, avoir ses 43 années.
Voilà, donc c'est une carrière longue, il devrait pouvoir, mais il y a des postures politiques et idéologiques qui disent qu'il faut travailler plus longtemps. C'est un peu ce que dit François Langlais.
Pour ne pas que ça soit trop simple quand même, François Bayrou a eu une idée hier. Il y a un micro tendu, il était au Salon du Bourget.
C'est la vue de... c'est votre avis, parce que...
Non, j'ai dit, il a une idée.
Simple.
Une bonne idée.
Ni simple.
On a dit ni bonne ni mauvaise. C'est avec Amandine, nous on est factuel. C'est vous qui débattez. Donc il a une idée, il a dit tiens, on va peut-être proposer une prime pour permettre aux gens qui travaillent de peut-être de toucher une petite partie de leur retraite déjà, en plus de leur salaire, après 64 ans. Alors pour le coup, ça concernerait ceux qui auraient déjà atteint cet âge légal. Et donc on a demandé à Marie-Lise Léon, d'abord s'il était au courant, et ce qu'elle pensait de cette idée, c'était ce matin sur RTL.
Un, ça arrive un peu tard. Deux, c'est pas chiffré. Je suis assez sceptique sur le fait que ça soit une solution qui puisse être reprise, surtout si c'est aujourd'hui qu'on termine. Et je pense qu'il faut qu'on termine aujourd'hui.
Nous, on n'a pas d'infos là-dessus, mais j'imagine que François Bayrou vous a expliqué ce qu'il voulait faire précisément avant de l'annoncer comme ça. Non, ça va être quoi? Comment ça va fonctionner?
Ah, j'ai pas plus d'informations que vous. Non. Ça a été juste, on l'a évoqué. Il l'a annoncé dans la presse hier. On n'a pas plus d'éléments que ça à ce stade.
On la sent, c'est le moins qu'on puisse dire, un peu embarrassée, Marie-Lise Léon. Elle ne veut pas dire qu'elle n'a pas été prévenue, mais à peu de choses près, c'est ça. Est-ce que c'est encore sans vouloir tomber dans le populisme, mais l'illustration de l'incompétence du politique que vous évoquiez, François.
En tout cas, de l'impréparation. Ça sort comme un lapin du chapeau. Quant à ses modalités, effectivement, on n'en sait rien. Quant au principe, c'est très discutable.
Ça n'existe pas déjà. C'est pas ça le.
Non.
Le prime emploi retraite. Enfin, le cumul emploi retraite, pardon.
Vous avez un cumul qui est possible, qui est relativement compliqué, hein, qui gagne à être simplifié.
C'est pas le même job. Quoi, le cumul emploi retraite. Non. Le cumul emploi retraite, on prend un petit job en plus alors qu'on est à la retraite. Alors c'est que ça. Là, si j'ai bien
c'est
compris.
Ça peut, mais ça peut être aussi.
Ça peut être le même emploi oui, qu'on ça. Poursuit. Ouais.
Vous n'êtes pas obligé de changer d'emploi, d'accord. De fait. Hein. C'est la juxtaposition de deux statuts.
D'accord.
Donc, mais elle est assez compliquée. Elle est soumise à des conditions très restrictives. Ça, il faudrait les faire sauter. Qu'on donne une prime, ça me paraît un peu saugrenu, honnêtement. C'est comme cette prime qui est destinée à récompenser ceux qui reprennent un emploi sans avoir longtemps touché le chômage. Mmh. C'est aberrant. On paye les gens parce qu'ils travaillent. Point. Et c'est la base du contrat social. Mais je ne vois pas très bien l'utilité de ce nouveau dispositif.
Philippe.
Non, mais ça, c'est typiquement un truc qui fout la pagaille, parce que pour montrer la bonne volonté, soi-disant la bonne volonté, et c'est pas de l'impréparation, c'est essayer de mettre en porte-à-faux les syndicats.
Ah bon ? Il y a une volonté de...
Bah, évidemment. Enfin, quand vous êtes en plein conclave... Mmh. C'est dans ces réunions qu'on discute de ça, c'est pas en faisant une déclaration la veille de la dernière séance de négociation. Et on a bien vu que Marie-Lise Léon était pas tellement au
mais
courant.
Mais il a aucun intérêt à ce que ça capote, le Premier ministre.
Non, mais c'est pour montrer que le gouvernement agit, fait des propositions, et il dit... C'est une vraie tactique politicienne, et on n'a pas besoin de ça. Alors, pour revenir sur le fond, on parle de réduire les dépenses... Et la seule chose qu'il a trouvée, c'est que ça soit les finances publiques qui payent une prime à ceux qui vont travailler plus longtemps. Ceux qui veulent travailler plus longtemps, c'est ou les entreprises qui veulent garder plus longtemps leurs salariés, ils n'ont qu'à les augmenter. Mmh. Voilà, ce sont des gens compétents, ils ont des qualifications, eh bien on les augmente et ça ne coûte rien, ça ne coûte rien aux finances
publiques. Oui, il y a aussi un autre moyen, c'est qu'aujourd'hui, la plupart du temps, quand vous continuez à travailler au-delà de l'âge légal, vous ne cotisez plus pour votre propre retraite. C'est-à-dire, c'est à fond perdu, en quelque sorte. Donc, c'est pas très incitatif. Enfin, c'est incitatif.
Ah bon, c'est à fond perdu?
Oui, enfin, au-delà d'un certain âge, c'est à fond perdu.
Oui, oui, au-delà d'un certain âge, parce que sinon, il y a une surcote.
Mais c'est ça.
Donc,
c'est
aucun intérêt à le faire.
Donc, au-delà de cet âge-là, non. Et effectivement, ça, c'est quelque chose qui pourrait être aménagé.
Alors, il y a un autre... sujet qui est presque un contexte global qui fait que, comme nos auditeurs qui nous envoient pas mal de messages sur 64-900, on comprend rien puis on n'a pas confiance. Écoutez ce que disait Éric Woerth, ancien ministre du budget, devenu macroniste. Il était l'invité d'Yves Calvi hier soir sur RTL. Et voilà ce qu'il a dit sur l'âge de départ à la retraite.
De toute façon, le système par répartition, hein, qui est le nôtre et qui restera pendant très longtemps quand même la base de notre système de retraite, il a besoin d'être ajusté. C'est terriblement impopulaire, mais c'est nécessaire. Il faut essayer de dépolitiser le débat, parce que c'est un débat en fait assez technique, hein.
Voilà, et lui il dit qu'il faut passer l'âge légal, il faudra passer l'âge légal à 65 ans. Il y a un député Cazeneuve de la majorité qui lui dit 66, hein, je crois, à échéance. Donc on se dit, là, on est en train de nous raconter une histoire de conclave, c'est un peu Goodbye Lénine. Il raconte des choses, le film, hein, dans lequel on ne fait pas la vérité aux acteurs, on leur fait croire que la RDA est toujours là. Donc on les met dans une salle pour un conclave. Et puis de l'autre côté, les politiques qui sont évidemment déjà avec l'esprit à 2027 et à la suite, y compris dans la majorité, disent « Oh, de toute façon, 64 ans, ça peut pas tenir, ça sera 65 ». Édouard Philippe dit 67. Comment on peut avoir confiance ?
Mais Thomas, les déterminants de base du problème, on les connaît. Aujourd'hui, le système est ultra déficitaire. Il y a un déficit apparent qui est très faible, mais si vous tenez compte du fait que l'État verse plusieurs dizaines de milliards d'euros de subventions chaque année au système sans lesquels il s'effondrerait, il est évident qu'il faudra aller jusqu'à 65.
Mais alors, arrêtons avec la fable du conclave, alors. C'est ça.
Mais Thomas, dites ça aujourd'hui. Ouais. Vous prenez des tomates de toutes parts. Ouais. Donc, ils essaient de trouver une voie moyenne. Je me permets de rappeler ce que tout le monde sait, mais c'est que la réforme des retraites, il n'y a pas une réforme des retraites, il y a une succession. Ça a commencé avec Robert Boulin dans les années 70.
Et ça va continuer donc
dans les
années. Et ça
va probablement continuer dans les 20 ans qui viennent.
Réforme terriblement impopulaire, mais nécessaire.
Ben oui, impopulaire, sauf
oui, mais
que...
Mais c'est un discours...
Personne ne veut travailler plus sur le
papier. C'est un discours de la part des politiques, enfin un certain nombre, qu'on entend depuis des années et des années.
Oui. Parce que c'est la vérité, là, Philippe, le fait que on vit de plus en plus vieux,
c'est
et il y a de moins en moins...
C'est une vérité.
C'est la vérité des chiffres.
Il y a plusieurs, je vous l'ai dit à chaque fois, il y a plusieurs options sur la table. Il faut faire des choix politiques. Et les gouvernements successifs ont fait le choix de faire payer systématiquement aux salariés, aux
salariés. C'est normal. Bah, qui doit payer ?
Les cotisations sociales, comme vous aimez le dire, c'est et ceux qui travaillent et les employeurs.
Les employeurs, employeurs, vous le savez, en France, ils ont les taux de cotisation parmi les plus élevés du monde.
Les employeurs, depuis des années et des années, voient leur taux de cotisation baisser, ce qui est en partie le problème de financement de la sécurité sociale en général. Donc il y a un discours très idéologique, et en nous disant, il n'y a pas d'autre choix. Et vous avez vu, Eric Woerth le dit aussi, oh non mais c'est très compliqué. En fait, on veut nous faire croire qu'il n'y a que des spécialistes qui pourraient comprendre.
Non, il n'a pas dit ça.
Non, il a dit compliqué. Il a dit c'est compliqué ou complexe.
Je reviens sur ce que vous dites, les exonérations de charges. J'entends ce discours, mais c'est bien la preuve absolue que si on veut créer de l'emploi, il ne faut pas de charges trop élevées. Et que nous sommes coincés entre ces deux nécessités, financer un régime de retraite qui aujourd'hui est largement déficitaire et ne pas surcharger le travail. De ce point de vue, on n'est toujours pas d'accord. C'est
le sujet du débat.
Ah bah ça, le jour où vous serez d'accord sur les retraites, les poules auront des dents. Là, pour le coup, autant il y a des sujets où on arrive à vous rapprocher, autant là, il n'y a rien à faire, ce sont deux lignes parallèles. On n'est pas toujours d'accord, le débat continue sur RTL.
On
n'est toujours pas d'accord, c'est ça. Dans un instant, Renault cherche patron, Luca Di Meo a pris la poudre d'escampette. À tout de suite sur RTL, il est 9h30.
Amandine Bégaud et Thomas Soto, c'est RTL Matin.
Gulli, c'est sur la 12.
Tous ensemble, tous.
Tout a pris feu et tout s'est écroulé.
Quand Annick a perdu sa maison, Elodie, son agent mutuel de Poitiers, était là pour elle.
Il fallait beaucoup la soutenir.
Moi, ce qu'il fallait, c'est quelqu'un sur qui je peux compter, qui soit sincère.
Moi, je connais tous mes sociétaires et je connais tous mes dossiers sinistres. Donc l'accompagnement, on l'aura plus qu'un assureur lambda. Ça, c'est certain.
Ça, c'est de la vérité. Ça ne serait pas vrai, je ne le dirais pas. Hein. Non, négatif.
Mutuelle de Poitiers Assurance, votre assureur vous connaît. Et pour vous, ça change tout. Julien Courbet règle vos problèmes en direct sur RTL.
Le 10h midi en direct sur RTL avec celui qui pensait mener une petite existence paisible dans sa petite maison qu'il a fait construire à la campagne sans compter sur son voisin dont les eaux usées se déversent chez lui. C'est la catastrophe. Les odeurs sont tellement insupportables que notre auditeur ne peut même plus habiter sa maison. Coup de fil en direct à 10h sur RTL.
Ça peut vous arriver, l'émission leader en France de 10h à midi. On n'est pas toujours d'accord, le débat du 9-10.
On n'est pas toujours d'accord, d'un côté Philippe Martinez, ancien secrétaire général de la CGT, de l'autre François Langlais, éditorialiste ici à RTL. Et on a donc appris, François nous a appris hier matin, ici à 7h35, le départ de Luca Di Meo, le directeur général, le patron de Renault. Vous nous en parliez François, il va partir chez Kering, le groupe de luxe qui détient notamment la marque Gucci, Yves Saint Laurent, encore Balenciaga. Départ inattendu dans un secteur qui va pas très bien, mais avec un groupe Renault qui lui va plutôt bien. C'est un coup dur ou c'est la vie des entreprises, c'est le mercato comme pour les footballeurs?
C'est le mercato comme pour les footballeurs, mais c'est pas une nouvelle très heureuse pour Renault, parce que le travail qui a été fait a quand même permis de redresser cette... Il n'est évidemment pas le seul. Hein. Mais ça a coïncidé avec justement son mandat. Ça a permis de placer Renault dans une position beaucoup plus favorable qu'il y a 5 ans. Alors, Martial disait ce matin... Martial Liu, dans sa chronique, un peu avant 7h, pointait l'évolution du cours de bourse. Hein, plus 12% hier pour Kering. C'est, de ce point de vue, un peu comme un footballeur. C'est-à-dire, on anticipe le fait qu'il va redresser la situation de cette entreprise, qui est assez problématique, Kering, l'entreprise de luxe dans laquelle il va. Maintenant, personne n'est irremplaçable, il ne faut pas non plus exagérer. D'abord, il reste un patron, c'est Jean-Dominique Sénard, et ensuite, ils vont recruter un directeur général, et souhaitons que Renault continue sur cette belle trajectoire qui a été initiée il y a 5 ans.
Philippe Martinez,
ancien salarié Renault.
Oui. J'ai connu quelques PDG à la tête de cette entreprise. C'est quand même assez grave que comme au football, on s'en aille pour aller où on paye plus.
C'est un peu la logique, certains vous diront que c'est la logique.
Moi, j'ai écouté quelques discours, parce que j'ai, de Monsieur Demeo sur des plans à 5 ans. Il vient d'achever un programme qui s'appelait Renault Lution, qui était. Il a complètement restructuré l'entreprise en la divisant en 3. Et on se dit, tiens, il a fait ça, puis il se barre. Donc la chance qu'il a eue en arrivant chez Renault, c'est qu'il arrivait après Carlos Ghosn, et c'était une situation catastrophique pour l'entreprise. Il n'y avait pas tout à refaire, mais il y avait à redonner confiance. Il y avait à redonner confiance. Donc c'est sûr, parce que.
Est-ce qu'il a réussi objectivement?
Financièrement, oui. Ouais. Les actionnaires sont contents.
Ouais. Pas les salariés.
Les salariés sont inquiets. Les salariés sont inquiets parce que.
Les ventes sont bonnes quand même.
Pardon?
Les ventes sont bonnes de voitures.
Elles sont moins pires que les autres.
Ah non, elles sont bonnes. Regardez le classement des meilleures ventes. Renault sont... dans les 3 des 5 meilleurs.
Oui, mais globalement, les ventes automobiles baissent.
C'est vrai. Mais
merci.
Dans une situation détestable, on sort plutôt bien.
Je connais des dizaines de salariés chez Renault qui travaillent très très bien, qui font du design véhicule parfait. La Renault 5, la sortie de la nouvelle Renault 5, la 4L, etc.
C'est très joli. Hein.
Qui est très, mais ouais. Évidemment, qui est assez cher quand même, mais qui est très joli.
Deux d'ailleurs, la 4L.
Parce que c'est un problème. Par exemple, la 4L. Pour les vieux comme moi, c'était le véhicule populaire accessible à tous. La 4L d'aujourd'hui, c'est beaucoup moins populaire et pas accessible à tous. Donc il y a un vrai, il a développé la marge, il a gagné beaucoup d'argent, même si et faire du volume. Il faut gagner de l'argent, mais faire du volume, c'est aussi des emplois.
Mais moi j'ai quand même une question, François. Nos grands patrons qui se plaignent assez souvent quand même globalement. Est-ce que ce ne sont pas finalement pour certains que des mercenaires? Est-ce qu'il n'y a pas quand même, il ne va pas y avoir quand même une.
C'est une bonne remarque, Thomas Soto.
D'affect. Vous m'inquiétez quand vous êtes d'accord avec moi.
C'est une très bonne remarque, Thomas.
Non, mais sincèrement, est-ce qu'on ne doit pas exiger, je ne sais pas si on peut exiger deux, mais peut-être un investissement plus sur le long terme?
La question n'est pas saugrenue. Et Philippe le disait, quand il disait, au fond, il nous a demandé implicitement de nous engager sur longtemps, et puis lui, lorsqu'il voit passer une belle occasion, il en profite, parce que au fond, il refait un peu ce qu'il avait fait chez Renault, c'est-à-dire qu'il arrive dans une entreprise qui est plutôt en bas de cycle.
C'est un spécialiste de changer régulièrement
d'entreprise. Pardon, mais c'est pas humain, ça?
Ça n'est pas condamnable en soi, critiquable. Mais c'est vrai que on n'est plus dans le temps où vous aviez une équipe dirigeante, celle du capitalisme familial.
Michelin, quoi.
Michelin, bien sûr. Il y a bien d'autres entreprises comme ça encore aujourd'hui, des petites comme des grandes, où le patron se dévoue une grande partie de sa vie professionnelle à l'entreprise. Les grandes entreprises, il y a un marché. Vous avez utilisé le mot de mercato, c'est le bon. C'est vrai que ça ressemble au footballeur. C'est à peu près à des niveaux de salaire
mais comparables. Mais il faut aussi être cohérent avec le discours qu'on fait passer aux salariés. C'est-à-dire, engagez-vous, on va redresser les manches, parce que c'est ça qu'il a dit, avec des restructurations, etc. Et puis, à la première occasion, il se barre. Ça, c'est on demande pas de la fidélité à vie, mais enfin, d'aller jusqu'au bout de ses engagements. Et puis, je fais une petite remarque annexe. Vous avez vu que l'action Kering a augmenté.
Et Renault a perdu.
Voilà. Et donc, la
vie. C'est l'instantanéité des marchés.
Je veux juste terminer. C'est qu'on ne juge pas la valeur de l'entreprise à la qualité de ses produits, au travail des salariés. C'est juste une personne se barre et il y a une fluctuation.
Oui, ça, c'est à court terme. Faudra regarder effectivement d'ici.
On se donne rendez-vous
avec plaisir. Semaine prochaine, on regardera le cours de Renault. Comment
d'accord. S'il y a un directeur général.
Oui, mais il y a des chances que ça fasse remonter le cours. Bon, on verra.
Mais je vous rappelle que Renault, c'est une entreprise qui fait des voitures, qui vit en fonction du directeur général qui est nommé à sa tête. Vous voyez?
Autre chiffre sur lequel on voulait vous faire réagir ce matin, il concerne Amazon. Amazon qui fête ses 25 ans en France. Un bilan complètement fou. Olivier Dauvert nous en parlait tout à l'heure à 7h20. Écoutez.
91% des Français, vous entendez bien, quasiment tous les Français, ont déjà acheté au moins une fois sur Amazon. Mmh. Premier site internet visité par les Français, même si on n'y achète pas à chaque fois, c'est vrai, eh bien on est quand même 41 millions à y faire au moins un tour une fois par mois, parce que c'est devenu une sorte de moteur de recherche commerciale.
91% des Français ont déjà acheté sur Amazon, 41 millions, vous aussi Philippe Martinez?
Non, moi je fais partie des 9% d'irréductibles gaulois.
Jamais.
Non, j'ai jamais acheté sur Amazon. Et il se trouve qu'on peut aller sur le site parce que il y a des, quand vous allez chercher un produit, on vous renvoie, mais j'ai jamais acheté, et je critique pas ceux qui le font. Par contre, on peut s'interroger sur la philosophie.
C'est un acte militant pour vous de pas aller sur Amazon?
Sûrement, écologique, social. D'ailleurs, vous avez remarqué que les pubs d'Amazon depuis quelques temps sont pas sur la qualité de leurs produits ou la qualité de leur livraison, c'est que du social. Du social. Ils veulent se...
En même temps, ils créent de l'emploi quand même.
Se racheter une...
Mais j'ai pas dit le contraire. Ouais. Je vous fais juste remarquer que ils veulent se redorer le blason, comme on dit, sur les questions sociales. Moi, je me souviens que pendant le Covid, tous les syndicats pointaient du doigt la situation des salariés d'Amazon, parce qu'ils travaillaient dans des conditions difficiles, ça continue, mais il y avait des problèmes de masques, etc., etc. Donc c'est, oui, un acte militant, mais vous savez, il faut des résistances dans la vie.
François ?
C'est intéressant parce que finalement, cette entreprise est l'exemple illustratif le plus spectaculaire de ce qu'on peut appeler l'économie presse-bouton. Mmh. C'est-à-dire, on est tous comme ça, au fond. On veut quelque chose tout de suite. Mmh. Et Amazon a rendu ça.
On ne sait plus attendre, ça c'est vrai.
On ne sait plus attendre. Voilà. Parce qu'on fonctionne un petit peu comme si on consultait les choses sur un smartphone et qu'on a la réponse tout de suite. Et effectivement, on est tous un peu schizophrènes parce que, de fait, si le consommateur a tout de suite, il y a derrière des gens qui pédalent. Mmh. Et qui pédalent dans des conditions qui sont pas toujours très, très honorables. Et cette schizophrénie du consommateur, ben, elle fait qu'on peut à la fois s'inquiéter des conditions de travail dans telle ou telle entreprise et en même temps ne pas supporter d'attendre un jour de plus pour la livraison d'un produit dont on n'a pas.
Moi, je vais vous dire, je commande sur Amazon et ça m'énerve. Donc, vous voyez, je suis
pas dans la schizophrénie. Ça s'appelle schizophrénie. Vous savez, il y a aussi un problème d'emploi du temps. C'est plus rapide parce qu'on n'a pas pu, on a moins le temps d'aller voir les magasins, d'aller demander des conseils. Mais si. Donc vous voyez que la réduction du temps de travail, c'est pas une idée tout à fait saugrenue, monsieur l'anglais.
On n'a jamais eu autant de temps en dehors du travail. Hein.
Vous peut-être.
Et tout le monde, 35 heures, c'est pour tout le monde. Et moi,
mais c'est la réalité.
Bon, et pour ceux qui sont en zone rurale, c'est aussi super pratique pour plein de choses.
Oui, parce qu'il n'y a pas de mobilité programmée, etc. Non. Et puis, ça génère la mort d'un certain nombre de centres-villes, parce que les magasins...
C'est spectaculaire, les magasins. D'abord, dans les rues de Paris et ailleurs, dans toutes les villes.
Le nombre de fermés,
c'est spectaculaire.
Alors, pancarte à vendre dans les magasins, oui.
Les centres-villes, honnêtement, c'est vrai que le e-commerce doit jouer. Mais vous avez aussi les grands centres commerciaux à l'extérieur des villes, qui sont là et qui ont aimanté beaucoup la clientèle.
Eh bien, merci à vous deux, messieurs. Vous restez avec nous dans un instant. C'est la patronne, la présidente du jury du dernier festival de Cannes. Elle a un Oscar. Elle revient avec The Return, le retour d'Ulysse, qui sortira demain au cinéma. Madame Juliette Binoche arrive en direct dans le studio d'RTL Matin.
RTL Matin, c'est jusqu'à 10h.
À tous ceux qui n'aiment pas spécialement se lever le matin, ni aller au travail, ni cuisiner tous les jours, ou se brosser les dents. Bref, à tous ceux qui trouvent que le quotidien, ça n'est pas assez bien pour être cher. Bah oui, je suis désolé, c'est surcoté le quotidien. Intermarché propose jusqu'à 1000 produits du quotidien à prix bas. Ah bah voilà ! Comme le paquet de 4 Liégeois chocolat pâturage, une marque Intermarché à 1,09€ seulement. Et c'est aussi sur notre appli. Intermarché, tous unis contre la vie chère. 400 grammes, soit 2,73€ le kilo, transformé en France. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Ce mardi, jackpot record Euromillions de 250 millions d'euros. Et vous, quel millionnaire seriez-vous ? FDJ, montant à partager au rang 1, plafonné à 250 millions d'euros, voire règlement sur fdj.fr. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Cet été, partez en vacances avec votre prof d'anglais préféré. Grâce au cahier de vacances Let's Go on Holiday de Monsieur Prof, révisez l'anglais en vous amusant. Jeux, devinettes, exercices et bonus audio pour progresser sans stress. Let's Go on Holiday avec Monsieur Prof pour des vacances à l'anglaise et 100% fun. Aux éditions Larousse.
L'invité du 9-10.
9h42 sur RTL et ce matin on est ravis d'accueillir l'une des actrices françaises les plus connues au monde, Juliette Binoche, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue sur RTL, on est ravis d'être avec vous ce matin pour évoquer ce film The Return, le retour d'Ulysse qui sort demain au cinéma. S'attaquer comme ça à l'Odyssée d'Homère, ça vous a pas un peu effrayé quand vous avez reçu le scénario?
Non, j'étais tellement heureuse, c'est inouï
juste comme actrice d'avoir un rôle pareil, c'est vraiment emblématique, c'est un archétype de notre humanité. Donc c'est un texte qui est né il y a 8 siècles avant Jésus-Christ, donc ça fait pratiquement 3000 ans, c'est extraordinaire.
Et vous êtes Pénélope, hein?
Non, je suis Pénélope.
Vous êtes Pénélope. Oui. Et quel rapport vous aviez avant de lire le scénario, avant de, avec l'Odyssée? Quand est-ce que vous l'avez lu, si vous l'avez
lu? Je l'ai vraiment lu, d'abord une version plus raccourcie pour mes enfants, et puis je l'ai vraiment lu pour le film. Ouais. Parce que j'ai lu en fait une version anglaise que j'ai vraiment beaucoup aimée, et ceux qui lisent anglais, c'est Emily Wilson qui a fait une magnifique traduction. Mais sinon, non, c'était pas... Même si j'ai fait 2 ans de grec, on n'a pas étudié ce texte-là.
Vous disiez que c'est une histoire écrite il y a 3000 ans, mais qui résonne encore aujourd'hui.
Ah oui.
Complètement d'actualité.
Complètement, oui. Ce sont des histoires qui resteront, je pense, toujours, parce qu'elles elles sont existentielles, finalement. Elles retracent vraiment nos vraies questions d'humains. C'est quoi retourner vers nous-mêmes, finalement, hein, vers c'est aussi ce film-là, c'est une histoire familiale, c'est un homme qui revient vers sa femme, mais aussi un fils qui est là, qui attend, et son père qui ne connaît
Ulysse,
pas.
Ulysse, Télémaque, voilà pour Pénélope.
C'est ça, oui. Et cette femme que je joue et qui résiste à la convoitise,
aux barbares.
Aux barbares, vraiment la barbarie, et qui, résiste, mais à la fois elle a ses propres désirs, parce que c'est ça qui est bien dans l'interprétation de ce film, c'est que c'est pas aussi manichéen la bonne femme, enfin la femme pas très bonne.
Mais c'est une femme forte avec la des bonne... c'est une femme forte avec des failles.
C'est ça, voilà.
Aussi.
Et avec des failles, non, avec tout simplement c'est son humanité, les désirs qui nous traversent, et mais elle garde, c'est vrai, son... Elle est rusée, elle a cette tapisserie qui est une forme de résistance, et puis qui l'aide à tous les jours à faire face à la solitude et à une sorte
elle
de tisse, désespoir aussi.
Elle attend, elle tisse, elle réfléchit.
Oui, c'est ça.
Elle lutte à sa manière, elle résiste en
c'est
fait.
C'est ça. C'est ça, oui. Elle gagne du temps avec l'espoir que son mari revienne sur l'île d'Ithaque, et il revient. Nu et magnifique, mais épuisé.
Ralph Fiennes, hein, qui joue Ulysse.
C'est ça.
Ce film international, film mondial. Mais quand même quand on s'appelle Juliette Binoche, même quand on a votre carrière, il n'y a pas un moment où certains textes font peut-être un peu plus peur que d'autres? C'est comme si on vous dit, tiens, tu vas jouer les 10 commandements.
Non,
mais. C'est d'Ulysse, vous ne dites pas, ouais, le truc quand même, c'est.
Moïse, vous auriez réfléchi.
Non, en tant que journaliste, vous vous dites que vous travaillez à RTL, c'est quand même incroyable.
Mais nous, on est dans l'écume des vagues, on n'est pas sur le bateau d'Ulysse.
Non, c'est très excitant, et on est, au contraire, en tant qu'acteur, on aime avoir des rôles comme ça, enfin, oui, archétypal et extraordinaire. Puis parce qu'il y a une interprétation plus moderne, hein, de cette histoire-là dans ce film-là. Et c'est ça qui est intéressant, c'est comment aujourd'hui, 3000 ans après, on peut l'interpréter.
Qu'est-ce que justement Ulysse, il y a 3000 ans, dit aujourd'hui, aux jeunes d'aujourd'hui? C'est quoi le message qu'il faut retenir d'Ulysse et de Télémaque et de Pénélope? Pas d'Ithaque, c'est l'île.
En tout cas, ce désir de revenir à une famille, hein, parce que c'est vraiment ça, hein, c'est des liens familiaux. Et sur le plan symbolique, on pourrait dire que il faut savoir choisir de quel camp on est. On est normalement, on devrait être dans le camp de l'amour, hein, dans le camp de la compassion, mais en tout cas dans le symbole. Ouais, non, c'est vrai, mais il faut savoir revenir à ça justement. Alors c'est vrai que il y a un moment donné quand même, il tue le mal entre guillemets, qui sont symbolisés par les prétendants qui veulent le pouvoir, qui veulent tuer son fils et en gros violer sa mère ou prendre prendre sa place. Donc symboliquement, ce qui est intéressant, c'est de revenir à un endroit de justesse, de justice. Pour moi, c'est une des histoires. Et la femme, Pénélope, elle prend, elle, une place. Elle est dans la résistance, dans une fidélité à ce qu'elle croit, à ce qu'elle, voilà, ce pourquoi elle se bat.
et elle est rusée à la fois, parce qu'elle ne va pas se laisser avoir.
Alors Ulysse, vous le connaissiez, Ralph Fiennes, vous avez déjà tourné ensemble, il y a plus de 30 ans dans Les Hauts du Hurlevent, je crois que c'était en 92, dans Le Patient anglais en 96. Comment se sont passées les retrouvailles? Est-ce que c'est... Alors, il n'y a pas les 3000 ans d'Ulysse, mais quand même, il s'est passé... Vous avez eu des vies entre-temps.
Ça s'est bien passé dans le sens où... Parce qu'on a tourné Le Patient anglais plus de 20 ans, ça faisait au moins 25-27 ans.
C'est le film qui vous a valu un Oscar, Le Patient anglais, non?
Pardon?
C'est le film qui vous a valu un Oscar?
Oui, oui. Bah, le film a eu 9 Oscars, donc il a...
Ne minimisez pas vos talents et vos compétences, s'il vous plaît, madame.
Mais on était heureux aussi, parce que quand on joue... Enfin, Pénélope et Ulysse ne sont pas vus depuis 20 ans. Et quand il y a un espace comme ça, ça joue pour nous. Enfin, ça nous aide finalement. Moi, j'étais très émue d'être en face de lui et de jouer parce que justement, il y avait tout ce temps qui s'était étiré.
Vous n'étiez pas revu vous-même depuis...
Si, on s'est vu de temps en temps, mais tout d'un coup, d'être face à une caméra, la caméra, elle amplifie l'intensité. Ouais. Elle magnétise un peu les relations. Et les émotions.
Juliette Binoche, vous avez présidé cette année le jury du Festival de Cannes. C'était comment, avec quelques petites semaines de recul?
C'était intense, mais tout à fait envoûtant, parce qu'il y a une responsabilité, et puis parce qu'on voit des films du monde entier, et on est avec les membres du jury viennent du monde entier, vraiment de continents très différents. Et ça, c'est passionnant. Moi, j'adore d'être confrontée à des différences et à des sensibilités qui font qu'on évolue. Moi, j'ai appris pendant toutes les discussions qu'on a eues, après, au fur et à mesure des films qu'on a vus, on en a vu 22, et à chaque fois, c'était vraiment un bonheur de partager ces nos différences.
Comme spectateur, on retient souvent le strass, les paillettes, le défilé de stars. Non, mais c'est aussi du travail et plus profond.
Ah, 22 films en 10 jours, quand même, c'est costaud.
On le dit peu souvent, finalement.
Oui, c'est vrai qu'on voit les tapis rouges et les paillettes, etc. Mais en fait, le métier d'acteur, c'est pas de tout repos. Je peux vraiment vous le dire.
Et Alex Vizorek.
En tant que présidente, vous avez dû arbitrer ou tout le monde était assez d'accord?
Vers la fin, il a fallu un peu arbitrer et de trouver un équilibre pour que le palmarès vraiment soit le miroir de nos différences. Mais d'une manière générale, on s'est vraiment bien entendu. Vers la fin, il a fallu trouver quelques compromis.
C'est vous qui avez tranché, du coup?
Oui, c'est moi qui ai proposé des compromis et ça a été accepté. Donc
vous devriez aller au conclave sur la retraite, parce qu'ils ont du mal à trouver un accord.
Thierry Frémaux m'a dit que j'étais très démocrate. J'étais content. Je me suis dit,
Vincent Lindon a été président du jury il y a quelques années. Il en tient une fierté immense. Est-ce que pour vous aussi...
Ça ne m'étonne pas.
Non, mais est-ce que pour vous aussi, c'est une forme de médaille? Est-ce que c'est une reconnaissance? Est-ce que c'est quelque chose, un petit truc en plus?
C'est une consécration, surtout que 40 ans avant, j'ai monté les marches pour Rendez-vous en 85, je crois. Donc c'était incroyable d'être là, mais à la fois...
Ça vaut un Oscar, ça vaut un César, ça vaut tout ça ou pas?
Ça vaut surtout d'être humble, parce que... Ouais. Vu ce qui se passe dans le monde, si on n'a pas un sens des valeurs de notre d'une nécessité d'humilité face à ce qui se passe, si on n'a pas cette conscience là, il vaut mieux faire autre chose.
La Palme d'Or cette année, vous l'avez, elle a été attribuée à Jafar Panahi, le réalisateur iranien. Quand vous voyez ce qui se passe ces derniers jours,
c'est effrayant et moi je prie c'est très effrayant là ce qui se passe en ce moment, la violence.
Vous avez de ces nouvelles ou pas?
Pardon?
Vous avez de ces nouvelles, parce qu'il est reparti en Iran?
Oui, et non, tout va bien.
Tout va bien?
Ce qui est quand même formidable, parce que on avait un peu peur pour lui. Mais non, apparemment tout va bien.
C'est là que finalement, ce que vous avez fait à Cannes, votre choix de Palme d'Or, Pénélope, tout ça se rejoint dans un acte
vrai.
De résistance.
C'est
en
vrai.
Fait. Ça a du sens, tout ça, non?
L'acte de conscience, l'acte de compassion, l'acte de comprendre ce qui est précieux, et c'est la vie des gens, et il faut préserver une grâce, je dirais, qu'il y a moyen aussi de descendre dans un autre endroit de nous-mêmes, c'est-à-dire la compassion. Et c'est pour ça que le film de Jafar Panahi est tellement important, parce qu'à la fin, il n'y a pas une vengeance de tuer, mais il y a celle de laisser la place à l'autre, de reconnaître en fait qu'il a fait une erreur. Et c'est ça qu'on a du mal à vivre aujourd'hui, c'est qu'on est dans la vengeance et dans la force, dans une violence, alors que de descendre à un autre endroit, ou de nous élever à un autre endroit, c'est ce qui ferait peut-être des passages, des ponts possibles. C'est ce que les diplomates essaient de faire, hein, mais là, ça doit être au niveau des gouvernements, déjà, parce qu'il y a une violence terrible. Mais entre les gens, ça se passe bien, c'est ça qu'il y a d'incroyable, c'est que les gens s'aiment, mais c'est à d'autres niveaux que c'est terrible.
On ne vous souhaite que du bien, mais vous ferez une très bonne ministre de la Culture. Vous restez avec nous. Le film The Return, le retour de l'Isle, sort demain, réalisé par Umberto Pasolini. Et dans un instant, on retrouve Alex Vilorek en direct.
RTL Matin, c'est jusqu'à 10h. On en parle.
Pourquoi passer à la mobilité électrique à l'approche des vacances d'été? On en parle avec Camille, conseillère EDF. Bonjour.
Bonjour. Eh bien, parce que choisir l'électrique, c'est vraiment faire des économies. En fait, la recharge de votre voiture électrique vous coûtera 4 fois moins cher que de faire un plein d'essence. Et c'est quand même plus agréable de le faire depuis chez vous plutôt que d'aller à la station de service.
Ça, c'est sûr. Merci, Camille.
Sourcerie des EDF, mars 2025. Plus d'infos sur edf.fr/mobilité-électrique. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Le décès de ma mère, c'était un moment difficile. Et quand j'ai dû m'occuper des obsèques, j'ai choisi Rock Éclair. J'ai pu les joindre le soir même au 3024. Et l'agence la plus proche de chez mes parents m'a rappelé immédiatement. Ils m'ont aidé à préparer la cérémonie qu'elle aurait voulu. C'était un beau moment. Après les obsèques, ils ont même pris en charge toutes les démarches. Les courriers, la clôture de tous les comptes et des abonnements. Ça nous a vraiment soulagés. Et pour les prix, c'était clair et très correct.
Rock et clair, là, pour vous, dans près de 500 agences en France et au 3024.
Carrefour. Quand vous me dites les cerises, alors en clafoutis, en tartelettes, en sorbet ou simplement nature, j'adore. Eh bien, je vous réponds que les cerises rouges Origine France sont à 4,99€ le kilo. Alors rendez-vous jusqu'à jeudi chez Carrefour, Carrefour Market Taylor Drive et sur votre appli Carrefour. Retrouvons tous le goût avec Act for Food. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Catégorie 1, détails sur carrefour.fr.
Vous êtes perdu, Klaus. Je vous vois, mais vous ne bougez plus et vous ne parlez plus.
C'est la ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, qui est venue leur distribuer les sujets dans cette salle de classe du lycée Buffon.
La visioconférence.
Klaus, je vous revois, mais je vous avais perdu.
Eh oui, Elisabeth Borne, hier, a distribué les sujets de philo à une classe. Et parmi ces sujets, il y avait une explication de texte d'un extrait de Théorie de la justice de John Rawls. Les lycéens ont donc vécu un paradoxe, recevoir un sujet sur la justice des mains de Madame 49.3. Il y avait un autre sujet. Notre avenir dépend-il de la technique? Question piège, puisqu'on le sait, notre avenir dépend surtout de la qualité de la diplomatie entre Israël et l'Iran.
Bonjour Alex.
Bonjour Amandine, bonjour à tous. Bonjour Madame Binoche.
Bon Alex, vous avez été interpellé.
Oui.
Interpellé par ce chiffre, oui. 15% des Français ne boivent plus une goutte d'alcool. Le secteur du spiritueux est de plus en plus inquiet.
Exactement. Bon, dit comme ça, c'est un peu comme si on titrait « Diminution des homicides volontaires en France, les vendeurs d'armes de plus en plus inquiets ». Parce que oui, il faut le rappeler, l'alcool, c'est de la merde. Mais comme le Perrier aussi. Enfin, c'est pas de la merde, mais il y en a dedans, apparemment. Du coup, ça change pas grand-chose, on sait plus quoi boire. Et vu la diminution, une question se pose. Que va proposer le lobby de l'alcool en France? Doit-on rendre la consommation d'alcool obligatoire? Faut-il imposer le pinard dans les cantines scolaires? Le lait pasteurisé est-il vraiment meilleur pour les bébés qu'un biberon de cognac Malibu?
Dans les années 50, on servait du vin rouge à la cantine.
En Belgique, de la bière.
Économie, les prix de l'essence pourraient exploser prochainement en France en raison du conflit entre Israël et l'Iran, et on pourrait atteindre jusqu'à 2 euros le litre, paraît-il.
2 euros le litre, c'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Le battement d'aile d'un F-35 israélien dans le ciel de Téhéran peut provoquer une augmentation du prix de l'essence dans la zone industrielle de Clermont-Sud. 2 euros le litre. Je ne suis pas spécialiste d'économie, je suis un peu triste que François Langlais soit parti, mais vous êtes là, oui, Martinez, oui, je ne sais pas pourquoi, mais je fais moins le lien entre spécialiste d'économie et vous.
On verra ça tout à l'heure.
Mais en matière d'investissement, je me dis que sans tarder, il faut mettre beaucoup d'argent dans les boîtes qui commercialisent des gilets jaunes. Ça pourrait monter dans les semaines qui viennent.
Allez, parlons de bonheur à présent. Selon une nouvelle étude hollandaise, le secret d'une vie longue et heureuse serait celui-ci: faire confiance à vos amis, aux étrangers et au gouvernement.
Oui. C'est une rupture d'anévrisme collective sur le plateau de CNews. Et on espère qu'ils vont se réveiller, même si, vu la confiance qu'ils ont dans les étrangers et le gouvernement, ils ont tous déjà bien dépassé leur espérance de vie.
Bon, et puis vous vouliez terminer par une info que vous avez trouvée sur le site internet slate.fr.
Assez dingue, cette info. Donc je vous lis le titre. Des chercheurs ont filé des champignons hallucinogènes à un curé, un rabbin, un imam et un moine.
Alors, c'est vrai.
Évidemment que c'est vrai. Alors c'est vrai que ça commence un petit peu comme le pitch d'une nouvelle comédie de Philippe Lachaud et Tarek Boudaï, mais c'est une vraie expérience, donner des substances psychotropes à des chefs spirituels, quels qu'ils soient, et c'est assez intéressant scientifiquement de revenir aux origines de leur hobby. On aurait évidemment adoré être là, après une heure de champi, quand il y en a un qui aurait dit « Écoutez, alors, sur l'identité de Dieu, on n'est pas d'accord, mais la qualité du champignon est impeccable, c'est divin. »
Le vrai résultat de l'étude, attention, hein, c'est qu'une majorité d'entre eux ont rapporté une intensification durable de leur sentiment spirituel et de leur engagement religieux.
Qui l'eût cru?
Eh bien oui.
Eh oui, donc il croit plus il prend des champignons, plus il croit.
Les hosties alors.
Et voilà, peut-être qu'il faut changer la recette des hosties. En tout cas, Karl Marx, quand il a dit « La religion, c'est l'opium du peuple », peut-être bien que c'était moins premier degré qu'on ne le pense.
Merci beaucoup, Monsieur Vizorek. Merci, Juliette Binoche. Le film, je le rappelle, sortira demain, The Return, le retour d'Ulysse, en salle partout en France. Merci d'aller nous voir ce matin. Merci.
Bonjour Julien Courbet.
Comme vous parliez d'hosties, il est grand temps, mes frères, que vous lanciez le top horaire.